Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous espère au mieux. Soyez les bienvenus sur RTL et dans votre magazine de société On est fait pour s'entendre. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 15h30. Ici, vous le savez, on s'interroge sans cesse, on questionne le monde dans lequel nous vivons et on tente d'y trouver notre place en dépit de ses atermoiements et de ses incertitudes. Et puis parfois, ce qui nous semblait acquis, eh bien, ne l'est pas tout à fait. Le 5 avril 1971, 343 Françaises, en dépit des poursuites pénales qu'elles encouraient, ont eu le courage de signer un manifeste pour soutenir une pétition dans le Nouvel Observateur appelant à la légalisation de l'avortement en France. On appelait cela alors le manifeste des 343. Et puis à l'époque, les femmes étaient contraintes à le faire en toute clandestinité dans des conditions inhumaines, dégradantes et dangereuses. Le 26 novembre 1974, Simone Veil montait à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre vaillamment la loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin.
Le 17 janvier 1975, les femmes en France peuvent avorter jusqu'à la fin de la 12e semaine de grossesse. Un nouveau manifeste des 343, publié le 5 avril dernier, exige une extension des délais légaux suite au retrait d'une proposition de loi pour allonger ce délai de 12 à 14 semaines. Alors, quelle est la réalité de la pratique de l'IVG en France aujourd'hui? Les femmes ont-elles réellement la liberté de disposer de leur corps? Pourquoi ce droit pourtant acquis en 1975 est-il toujours remis en question? On va en parler avec vous, avec nos invités qui sont dans ce studio, mais pour l'heure, accueillons Xavier Gauthier sur cette antenne. Xavier Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue et j'aurais envie de vous dire merci, Xavier Gauthier, pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes féministe, vous êtes autrice de différents ouvrages et notamment des avortés clandestines, c'est aux éditions Mot Conduit. Vous faites partie de ces meurtries de l'ombre, enfin c'est ainsi que j'ai envie de vous appeler, car c'est bien à cela l'ombre que la société vous condamnait, vous et les autres d'ailleurs, avant la loi Veil. Xavier Gauthier?
Oui, je pense que c'est une belle appellation meurtrie de l'ombre et je m'excuse de ce silence, mais j'en profite pour dire que ce qui était le plus dur à l'époque, c'était justement le silence. Oui. Le silence, puisqu'on n'avait pas le droit de le faire, on n'avait pas le droit d'en parler et c'était une chape de plomb sur nos épaules.
Quel était ce combat qui attendait les femmes justement pour pouvoir recourir à ces avortements illégaux? Comment ça se passait, Xavier Gauthier?
Alors, puisque c'était interdit, on n'avait pas d'adresse, évidemment, de personnes fiables auxquelles s'adresser, et c'était le bouche à oreille, on cherchait partout, on frappait à toutes les portes, on demandait tout doucement, en ayant peur, et souvent, les semaines et les mois passaient, d'ailleurs, on n'avait pas tellement de notions exactement quelle était la date. À partir de quand on était enceinte. Et donc, à force de chercher, le temps passait et le risque était de plus en plus grand. Ensuite, il y avait la question de l'argent, parce que ça coûtait souvent très cher, puisque, encore une fois, c'était clandestin. Donc, ce qu'on appelait les faiseuses d'anges, mais il y avait aussi des faiseurs d'anges, pouvaient prendre l'argent qu'ils voulaient. Je me souviens de femmes pour qui le salaire d'un mois ou de deux mois est passé dans cette intervention. Voilà. Donc, la recherche désespérée, la recherche d'argent aussi. Et puis ensuite, on était livré aux mains d'une personne pas du tout experte, pas du tout qualifiée et capable de vous faire subir à peu près n'importe quoi.
C'est-à-dire, concrètement, pour les jeunes là et les femmes qui nous écouteraient et qui ignorent encore ce que c'était à l'époque.
Alors, il s'agissait, pour arrêter la grossesse, pour faire partir le fœtus, il s'agissait d'introduire un objet pointu dans le col de l'utérus. Ça pouvait être une aiguille à tricoter, ça pouvait être une sonde, ça pouvait être des pics que les vendeuses mettaient, vous savez, pour les pommes et les oranges. Ça pouvait être une tige de lierre, un morceau de parapluie, enfin plein de choses, les plus horribles qui soient. Il s'agissait d'introduire donc cet objet pointu pour introduire de l'air et pour commencer une infection. C'est-à-dire l'utérus devait être infecté. Et à ce moment-là, moment de l'infection, en général, ça se passait très très mal, c'est-à-dire que la femme était victime d'une hémorragie terrible. Et il s'agissait pour elle d'aller à l'hôpital, mais pas trop vite, parce que si elle allait trop tôt, ce qui arrivait quelquefois, et même souvent, c'est qu'on dise « Oh ben voilà, non, oui, il y a un petit problème, mais ça va se passer, votre grossesse continue. » Comme on disait dans notre langage, ben, il raccroche le fœtus. Donc on attendait le dernier moment, et puis on risquait la mort, pour aller dans un hôpital où, à ce moment-là, on vous faisait un curetage. Le curetage, c'est quelque chose, heureusement maintenant, il n'y en a plus besoin dans la plupart des cas. C'est une opération extrêmement délicate, extrêmement dangereuse, extrêmement douloureuse. Et la plupart du temps, les internes, les médecins, faisaient ce curetage à vif. Ce qui était exactement une torture. Une torture. Et en plus, ces internes, ces médecins, disaient, justifiaient cette torture en disant, eh bien, ça lui apprendra. Comme ça, elle ne recommencera pas. Voilà l'ensemble des risques et des horreurs encourus à l'époque. Risque de mort, risque de mutilation, risque de blessure, risque de prison. Oui. Risque, voilà. Donc, c'était un événement absolument terrible.
Alors, à la fois au regard de la société et donc de la loi, des criminels clandestines, des femmes complètement perdues, des femmes mutilées sur des tables de cuisine dans des conditions absolument inhumaines, telles que vous venez de nous les décrire, Xavier Gauthier. Si vous le voulez bien, on va se retrouver dans un instant. Une femme sur 10 mourait chaque jour, à l'époque d'un avortement clandestin. Vous-même, vous avez été sauvée au dernier moment. Xavier Gauthier, c'est devenu le combat de votre vie. Il en est une qui vous écoute, elle s'appelle Laura. Laura, c'est une jeune femme. Bien évidemment, tout ce que vous nous dites aujourd'hui nous glace et la glace. Elle a 22 ans, elle nous rejoindra sur cette antenne. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Merci d'être avec nous jusqu'à 15h30 aujourd'hui. On va parler d'une réalité, la réalité de la pratique de l'IVG en France. Pourquoi ce droit acquis pour les femmes depuis le 17 janvier 1975, pourquoi ce droit est-il encore et toujours remis en question? Vous allez entendre des témoignages édifiants et des contestataires aussi en deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, Xavier Gauthier est notre invité. Vous venez de nous glacer en nous expliquant ce que vivaient ces femmes qui avortaient dans la clandestinité avant 1975. Je suis sûre qu'il y a des jeunes qui vous écoutent, et Laura qui va intervenir dans un instant, qui n'en reviennent pas de ce que vous nous dites, et pourtant c'était hier. Xavier Gauthier, vous-même, vous avez failli mourir. C'est cette idée de perdre la vie pour ne pas la donner, de risquer de perdre la vie pour ne pas la donner. C'est fou.
Ah oui, mais moi je crois que on était toutes fermement décidées,
bien sûr,
à le faire, ouais. Et que par la suite j'ai interviewé des femmes qui avaient connu ça et qui étaient mères. Elles étaient mères d'un enfant, de plusieurs enfants. Eh bien, elles disent toutes, oui, je savais que je pouvais mourir. Je savais que deviendraient mes enfants, que mes enfants seraient orphelins. Eh bien, tant pis. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je devais avorter. Une femme qui est enceinte contre sa volonté, elle est prête à tout. C'est impossible de faire autrement. C'est une nécessité. Voilà.
Et je reprends des termes de Michel dans votre livre « Avorter clandestine », qui est une sorte de succession de témoignages justement sur ce sujet. Michel qui avait déclaré « J'étais prête à aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort ». Donc une souffrance physique immense, une souffrance morale aussi terrible, Xavier Gauthier.
Oui, et un isolement terrible. Oui. Parce que la souffrance, quand on l'affronte à plusieurs, qu'on est aidé, déjà c'est un peu mieux. Mmh. Mais on ne pouvait en parler à personne parce qu'on risquait, la prison, ou dans certains cas c'était le retrait des droits civiques. Enfin, il y avait un certain nombre de sanctions. et on risquait une désapprobation qui existe toujours, mais qui alors était beaucoup plus forte. Et donc, on ne devait pas parler, on souffrait d'autant plus qu'on était seul ou presque à affronter ce problème majeur.
Celles que l'on appelait les faiseuses d'anges ou les faiseurs d'anges, vous expliquiez il y a un instant qu'ils n'avaient absolument aucune formation.
Alors, certaines, moi je sais que la mienne, en principe, elle était infirmière au départ, mais en fait on n'en savait rien, évidemment. Il n'y avait ni papier ni rien. Il est possible, d'ailleurs pas il est possible, il est vrai que certaines femmes, par exemple, ont fait des avortements pour aider d'autres. Voilà. Mmh. Mais la plupart, c'était pour avoir de l'argent.
Ouais, c'est ça.
De l'argent non déclaré, évidemment. Hein. Donc, c'était des personnes qui n'avaient auxquelles on ne pouvait pas se fier. Et il est arrivé que certains hommes violent des femmes qui venaient pour se faire avorter. J'ai ça aussi dans mes témoignages. C'est impressionnant.
C'est-à-dire que pour, effectivement, se faire avorter, ces femmes donc pouvaient aller jusqu'à la mort et pouvaient également courir le danger d'agression sexuelle qu'elles ne pourraient pas, dont elles ne pourraient pas se défendre après puisqu'elles étaient dans la clandestinité. Donc c'était vraiment l'affaiblissement pur et simple de la femme qui ne disposait en aucun cas de son corps, on l'aura compris à travers ce que vous nous dites. Xavier Gauthier, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui en France, ce droit acquis en 75 soit encore remis en question et remis en cause?
Je crois que c'est un droit, c'est le droit fondamental. Oui. Et que ça, c'est très très difficile à la société patriarcale de l'accepter. Justement parce qu'elle est basée là-dessus, elle est basée, le patriarcat c'est ça, hein, c'est la mainmise sur la fécondité des femmes. Ce pourquoi on les enferme, ce pourquoi tout ce qu'on leur fait comme horreur, tout ce qu'on leur fait subir vient de cela. Donc il faut museler cette capacité qu'ont les femmes de créer les êtres vivants. Donc c'est la liberté fondamentale et c'est la plus difficile à acquérir. Je vais vous dire, si demain on disait en France, oui il y a des élections, mais les femmes ne voteront pas, seulement les hommes. On croirait que c'est un canular. On va pas interdire aux Françaises de voter. Mauvaise blague. Mais, parce que ça, c'est vraiment acquis, c'est vraiment inscrit dans le marbre, le vote des femmes. Par contre, la maîtrise de leur fécondité, c'est beaucoup plus difficile. Le principe est acquis, mais on peut grignoter ce droit de 36 façons.
Alors, vous expliquiez il y a un instant, Xavier Gauthier, que les femmes, avant la loi Veil, étaient condamnées à un parcours en solitude. Laura, elle a 22 ans et elle l'a vécu, ce parcours en solitude. Il y a seulement un an, c'était en avril de l'année dernière. Laura, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RTL, merci d'être avec nous. Merci pour votre confiance. Vous avez 22 ans, vous vivez à Bruxelles. Vous avez entendu Xavier Gauthier parler. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Je voudrais déjà savoir, Laura, quelle est la résonance des propos de Xavier Gauthier sur votre propre histoire?
Je trouve ça incroyable. Comme quoi, encore aujourd'hui, on n'a toujours pas les bons droits.
Ouais.
Toujours jugé pour faire un avortement, toujours mal vu.
Vous avez avorté, vous, il y a un an, en avril dernier, en avril de l'année dernière, ce qui est votre droit le plus strict. Pourtant, vous n'en avez parlé à personne.
Non, j'en ai parlé que à quelques amis qui m'ont eux-mêmes rejeté.
Votre famille?
Ma famille est au courant de rien. Je viens d'une famille catholique qui n'aurait rien compris à cette démarche.
Donc, vous êtes allée seule?
Oui, j'étais seule.
On va se retrouver dans un instant. Laura, Xavier Gauthier, vous voulez bien rester avec
oui,
nous,
écoutez
le témoignage de Laura et nous apporter aussi votre éclairage. Et on accueillera ensuite nos invités qui sont dans ce studio. À tout de suite sur RTL.
D'accord.
Xavier Flamand sur RTL. Xavier Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Laura, elle a 22 ans. Elle a avorté il y a un an dans le plus grand des secrets. Elle est écoutée par Xavier Gauthier, qui est une grande féministe et que l'on remercie pour tout ce qu'elle a fait, évidemment. Laura, vous n'avez pas pu en parler ni à votre famille, puisque votre famille est contre l'IVG. C'est bien cela?
Exactement.
Ni à vos amis. Et si vous avez tenté d'en parler à certains de vos amis, ils vous ont rejeté?
Oui, exactement. Ils m'ont rejeté en me traitant de meurtrière pour avoir enlevé une vie. Voilà.
Pardonnez-moi, vos amis ont quel âge?
Ils ont mon âge aussi, 22 ans, 23 ans.
Des filles, des garçons, qui vous a insulté, qui vous a traité de meurtrière?
Plus des filles.
D'accord. Vous êtes dans un milieu, même je dirais, votre milieu amical aussi est un milieu très ancré dans des, dans une pratique religieuse.
Alors pas du tout.
D'accord.
Étonnamment, pas du tout. Alors, mais ils ne comprennent pas du tout mes démarches.
Est-ce que vous avez eu le sentiment de devoir vous justifier, Laura ? Est-ce que vous l'avez fait en tout cas ?
Oui, avec certaines personnes, j'ai dû me justifier pour en disant que garder cet enfant était impossible.
Pardon, je suis silencieuse parce que je suis assez estomaquée qu'aujourd'hui cette question puisse encore se poser auprès des jeunes. Qu'avez-vous fait puisque vous dites que c'était impossible et votre droit le plus strict était effectivement de mettre un terme à cette grossesse. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment avez-vous fait ?
J'ai contacté un planning familial vu que mes moyens ne me permettaient pas d'avoir un enfant.
Ouais.
Donc qui m'a aidée à faire les démarches.
Vous avez avorté donc seule ?
Oui.
Dans un cadre hospitalier ?
Dans un planning familial.
D'accord.
Donc, il y avait une psychologue avec moi et une gynécologue.
Donc vous êtes arrivée le matin, vous êtes rentrée le soir ?
Exactement.
Et vous avez repris votre vie comme si de rien n'était ?
Oui.
Et personne ne le sait ?
Non.
Est-ce que c'est une grande souffrance morale pour vous de ne pas avoir pu le partager ? De ne pas avoir été soutenue, parce que c'est un acte qui n'est pas anodin non plus. Enfin, je dis dans le sens où c'est quelque chose qui nous pose question. C'est une aventure pour une femme aussi.
Oui, on se sent très seul par ces moments-là. Ouais. On a envie d'en parler.
Oui.
Mais quand on voit comment certaines personnes réagissent, on préfère se taire.
Xavier Gauthier, quand vous écoutez Laura qui a 22 ans, qui nous parle du monde d'aujourd'hui et des réactions qu'elle a pu entendre, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui,
ça vous surprend ?
Non, pas vraiment, parce que, encore une fois, je pense que cette liberté-là est très difficile à être acceptée par tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a un retour du religieux en ce moment qui n'est pas bon. Quand je pense qu'on ose dire à une femme, vous avez supprimé une vie, vous êtes une meurtrière, quelque chose comme ça, je pense à un slogan des Sud-Américaines, je ne sais pas s'il y a le même en France. Elles disent « éducation sexuelle pour décider, contraception pour ne pas avorter, avortement pour ne pas mourir ». Et je trouve ça magnifique, c'est-à-dire que on voit bien que c'est un ensemble, la contraception et l'avortement, et que l'avortement sûr et légal empêche les femmes de mourir. Et évidemment, maintenant, on s'en rend plus compte parce que, justement, c'est légal, mais c'est quand même la base.
Et on se rendra compte dans la deuxième partie de l'émission que même si effectivement aujourd'hui c'est quelque chose de légal et c'est un droit qu'ont les femmes, malheureusement en termes d'application ça n'est pas si simple que ça encore aujourd'hui. Xavier Gauthier, je vous remercie d'avoir passé cette première demi-heure avec nous.
Merci
pour tout et je rappelle votre ouvrage Avorté clandestine aux éditions Mot Conduit. À bientôt j'espère sur cette antenne. Merci Xavier Gauthier.
Merci à vous.
Laura, vous restez avec nous puisqu'on va accueillir maintenant nos invités. Bonjour Sarah Durocher.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente nationale du planning familial. Ça fait maintenant 17 ans que vous travaillez au planning familial. Quand vous entendez le témoignage de Laura qui est toujours en ligne avec nous et qui s'est tournée vers un planning familial, c'est aujourd'hui effectivement la réponse pour toutes ces jeunes femmes qui ne sont pas comprises et qui cherchent une main tendue.
En tout cas, c'est une des réponses, et le planning s'identifie de cette manière-là, ça veut dire de pouvoir entendre les questionnements, entendre le doute, le choix que les personnes peuvent avoir sur une grossesse non désirée. Et c'est surtout, en effet, essayer de leur dire tout simplement, vous avez le droit, on vous écoute. Et en fait, les femmes se justifient de manière très régulière. Enfin, ce que racontait Laura sur la question de la justification. Nous, je sais que par exemple au planning, on a très vite essayé de remettre du collectif en se disant, les femmes quand elles viennent au planning, même au planning, ça soit la première chose qu'elles font, c'est de se justifier de pourquoi elles font ce choix-là.
Vous aurez remarqué, Laura, que je ne vous ai même pas posé la question.
Non.
Parce qu'il n'y a pas de parcours, justement. On n'a pas à se poser cette question-là.
On n'a pas à se poser, sauf que quand on fait un test de grossesse, on est quand même dans une société. Moi, souvent, je prends l'exemple de la pub du test de grossesse. C'est toujours une bonne nouvelle. Quelqu'un va vous dire, je suis enceinte, ça va être félicitations. Sauf qu'en fait, ce n'est pas tout le temps une bonne nouvelle. Ça peut être aussi une grossesse qu'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas. Et nous, au planning, on réaffirme en tout cas que l'avortement, c'est une solution à une grossesse une grossesse non désirée. Et tant qu'on parlera d'échec ou de regard très jugeant ou culpabilisant, ça voudra dire qu'il y a encore un long chemin à faire et l'éducation à la sexualité est plus qu'essentielle.
À vos côtés, Philippe Fauché. Bonjour Philippe Fauché.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes gynécologue obstétricien, vous dirigez l'unité d'orthogénie, donc c'est la spécialité médicale qui concerne la régulation des naissances, tout ça à l'hôpital Trousseau à Paris. Vous êtes très engagé et vous militez pour améliorer l'accès aux avortements et étendre le délai légal maximal. On y reviendra. Quand vous entendez le témoignage de Laura, vous envoyez, vous, régulièrement des jeunes filles comme ça?
On voit souvent des femmes qui sont assez seules, en fait, rarement accompagnées par leur conjoint.
Mais à 22 ans, sans déconner, quoi. Pardon de le dire comme ça,
Laura. Qui ne peuvent pas en parler à leurs parents, qui ont toujours, en fait, il y a toujours la honte de l'avortement existe toujours maintenant aujourd'hui, et c'est cette honte-là qu'il faut être capable de faire disparaître. En fait, il faut que les femmes puissent exercer ce droit sans en avoir honte.
Est-ce que vous avez été traversée par la honte, Laura?
De moi-même, non, mais par le regard des autres, oui.
Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourrez en parler à votre mère, par exemple, votre maman?
À ma maman, oui, parce qu'elle sera plus apte à comprendre.
D'accord. Et est-ce que vous irez en ayant le sentiment de devoir confesser une faute?
Presque.
Eh ben, c'est pas juste. C'est pas normal, Laura. Mais vous le savez au fond de vous, ça n'est pas normal.
Bien sûr que je sais, moi je m'en rends compte. Mais voilà, dans notre religion chez nous, ça se fait pas et eux aussi se basent là-dessus.
Vous avez entendu parler de la marche de la vie?
Oui, j'en ai entendu parler.
Bon, parce que dans un instant, on va passer aux informations sur l'antenne d'RTL. Vous allez peut-être rester à notre écoute. Et effectivement, on passera certains extraits juste après les informations de gens qui sont... Enfin, j'ai du mal à parler. Comment on les appelle, en fait, Philippe Fouché, les anti-IVG?
Oui, les anti-choix,
les anti-IVG, les pro-vie. C'est ça, comme
pro-vie,
si effectivement...
Trop,
oui, moi, je suis d'accord avec vous.
Pro-vie, ça me plaît pas.
On est d'accord.
Les anti-IVG,
voilà. Et leurs arguments, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. Laura, je vous souhaite plein de bonnes choses.
Merci beaucoup.
Plein de bonheur. Une grande liberté. Voilà. Et je trouve que ce que vous avez fait, vous aviez le droit de le faire et c'est vachement bien parce que vous l'aviez au fond de vous, quoi. Et donc, dans ces cas-là, il ne faut pas se poser la question. Et je vais vous dire un truc, Laura, vous n'êtes pas la seule. On est nombreuses à l'avoir fait. Je vous embrasse, Laura.
Un grand merci.
Merci
je vous
à vous.
Embrasse.
Et prenez soin de vous. D'accord. On passe aux infos sur RTL et après vous entendrez le témoignage d'Angie. Elle s'est retrouvée un jour face à un médecin qui était contre justement et qui n'a pas spécialement voulu l'aider. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Avec nos invités aujourd'hui, Philippe Fauché qui est gynécologue obstétricien et qui est très engagé, il milite pour améliorer l'accès à l'avortement et étendre le délai légal maximal. On est bien d'accord que c'est de 12 à 14 semaines suite au retrait.
De grossesse. 12 semaines de grossesse, 14 semaines d'aménorrhée actuellement, et on voudrait passer à 14 semaines de grossesse, 16 semaines d'aménorrhée.
Voilà, et vous êtes l'auteur d'un livre, Une sur 3 aux éditions Robert Laffont, Une sur 3.
Femme avorte dans sa vie d'après les statistiques des démographes.
Voilà, c'est un droit donc acquis en France depuis 1975 pour les femmes. Sarah Durocher, vous êtes coprésidente nationale du planning familial. Le planning familial, moi je me souviens quand j'étais adolescente, c'était comme un recours, vous voyez. Je savais que c'était un organisme qui allait m'écouter. Je pourrais pousser la porte du planning familial. Est-ce qu'aujourd'hui les jeunes ont les mêmes réflexes que nous à l'époque?
Oui, les jeunes. Alors, il y a le fait, en effet, au planning, on accueille pas mal de jeunes femmes, de femmes, de jeunes hommes aussi, sur des questions de sexualité, de santé sexuelle de manière très générale. Et on est beaucoup perçu sur la question de l'avortement. On en parlait avec Laura tout à l'heure. Et puis, on va beaucoup vers l'extérieur aussi. Ça veut dire que on fait des groupes de parole, on fait des séances d'éducation à la sexualité, de la formation. On essaye vraiment. Enfin, pour nous, l'éducation, c'est tout le temps et toute la vie. Et donc, du coup, on essaye vraiment de permettre aux personnes d'avoir des informations, de pouvoir choisir pour eux et pour elles. Et ça, c'est assez essentiel pour nous.
Est-ce qu'il faut encore, aujourd'hui, éduquer les jeunes femmes à leur liberté, au droit qu'elles ont de disposer de leur corps? Est-ce qu'il y a encore une pensée culpabilisée dans l'esprit de la jeunesse?
En fait, sur les questions, par exemple, de grossesse, il faut savoir qu'on est quand même assez observé, en manière générale. Ça veut dire où on est trop jeune, on est trop âgé, ou un, ou deux, ou trois, ou sur la question de décider de stopper une grossesse. Et en fait, à partir du moment où on va informer les personnes sur leurs droits, sur leur possibilité d'avoir des choix, et que la loi permet ça en France, de manière sécurisée, il faut juste rappeler quand même que ce n'est pas le cas dans le monde. Ça veut dire que ce que témoignait la première personne, personnes au tout début de l'émission.
Xavier Gauthier.
Il y a la moitié des pays dans le monde, les femmes, meurent ou ont de graves conséquences. Et pourtant, elles ont choisi de stopper cette grossesse-là. Et donc, bien entendu, que nous on fait un très gros plaidoyer sur la question de l'éducation à la sexualité, qui est pour nous est essentielle, et de savoir ses droits et de pouvoir décider pour soi, c'est quelque chose qui s'apprend dès le plus jeune âge.
Philippe Fauché, est-ce que vous êtes, vous, dans votre pratique de gynécologue obstétricien, encore en proie à des assauts, à des groupes, à des menaces de la part de groupes anti-IVG ?
Non, parce qu'on a la chance en France d'être protégé par une loi qui date de 1992,
oui.
La loi Neyertz, qui en fait punit tout commando qui vient dans un centre d'IVG. Ce qu'il faisait avant, c'est qu'il s'enchaînait sur les tables d'intervention avec en chantant des cantiques, etc. Et ça, maintenant, enfin, depuis 92, c'est puni par la loi. Donc on n'a plus d'attaque, on n'a plus de commando anti-IVG. Maintenant, ça se passe sur Internet. Il faut savoir que les anti-IVG sont sur Internet, mais physiquement, pour répondre à votre question, non, je n'ai jamais été victime d'attaque.
D'accord. Vous pouvez l'être sur les réseaux sociaux, de par votre engagement. Est-ce qu'on peut pratiquer aujourd'hui en France l'IVG sans être inquiété d'une manière ou d'une autre?
Pour l'instant, enfin, oui. Je croise les doigts. Avec la sortie de ce livre, peut-être que ça va changer. Mais pour l'instant, non, j'ai pas encore eu des menaces physiques, des menaces verbales sur Internet ou par courrier. Non,
vous connaissez tous les arguments qui sont opposés à l'intervention volontaire,
oui,
de grossesse.
Oui, bien sûr. Les arguments des anti-IVG. Bon, en fait, les anti-IVG choisissent leur camp à 100%. C'est-à-dire qu'ils sont pour, entre guillemets, la vie en devenir ou l'embryon. C'est-à-dire qu'à partir du moment. Alors, après, tout dépend. À quel moment on le place, mais est-ce que c'est au niveau de l'ovocyte, du spermatozoïde, de l'embryon, enfin, la vie ne doit pas être touchée, on n'a pas le droit d'arrêter une vie en devenir. Et eux, ils sont...
Sarah Durocher.
Oui, puis sur ce que disait Philippe, en fait, c'est qu'ils sont sur Internet et nous, lors des permanences, par exemple, du planning, on a pu voir des personnes arriver en disant, écoutez, j'ai appelé un numéro. Je pensais que c'était un numéro qui allait me donner de l'information. Et là, tout d'un coup, c'était pas du tout ça. C'était pas forcément bienveillant. Il y avait de la désinformation et pas agressif comme on peut avoir en image, en fait. Mais c'était vraiment la question de... Aujourd'hui, en fait, les anti-IVG attaquent l'accès à l'avortement, en fait, en désinformant, en ayant formé ou en essayant de parler avec des médecins en formation, par exemple. Donc, il y a vraiment quelque chose autour de l'accès et c'est assez... c'est assez judicieux de leur part, en tout cas.
La marche pour la vie, c'était en janvier 2019. Voici ce que disaient ceux qui se mobilisaient contre l'IVG à Paris.
Je viens défendre la vie, de son commencement jusqu'à sa fin.
Moi, je suis pour qu'on donne toutes les possibilités à un petit être qui n'a rien demandé, si ce n'est qui est là et qui vit déjà, qu'on lui donne toutes les possibilités de pouvoir s'épanouir dans le ventre de sa mère, tranquillement.
La loi Veil, hein, qui devait être exceptionnel, on est passé à un génocide, plus de 220 000 bébés tués dans leur ventre en France par an.
Effectivement, 232 000 interruptions volontaires de grossesse ont été réalisées en 2019 en France. Et une femme sur trois, comme vous le rappeliez très bien, Philippe Fauché, est amenée à avorter au moins une fois dans sa vie. On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. On va accueillir Angie. Angie, elle va nous expliquer ce qu'elle a subi en octobre dernier. A tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Des messages qui nous arrivent évidemment, car voilà un sujet, celui de l'IVG, qui provoque de nombreuses réactions. Des hommes qui nous écoutent. En 2009, j'avais accompagné mon ex-compagne à l'hôpital car elle voulait avorter, nous écrit Rémi. Nous étions jeunes, j'ai compris son choix. Le personnel hospitalier était étonné que je sois aux côtés de ma compagne pour l'accompagner dans cette démarche. Mais pour moi, c'était une évidence. Julien, nous avons fait ce choix avec ma femme il y a quelques années. Les médecins n'ont pas compris cette décision car selon eux, nous avions la situation idéale pour accueillir cet enfant. Impensable et inadmissible de se sentir jugé de la sorte. Merci pour cette émission. Merci à vous, Julien. Ça, ce sont des décisions qui peuvent être prises de concert dans un couple. Philippe Fauché, on vient de l'entendre à travers Rémi et Julien. Et en même temps, c'est un droit fondamental. C'est la liberté de la femme de disposer de son corps et de demander une assistance et une interruption volontaire de grossesse. Néanmoins, ce que dit Julien, c'est que ce couple a été mal accueilli, je dirais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut, en tant que médecin, s'opposer clairement, afficher clairement son opinion face à un patient ?
Il y a en fait dans la loi sur l'IVG ce qu'on appelle la clause de conscience spécifique à l'avortement.
La double clause de conscience,
parce qu'il existe déjà une clause de conscience générale pour tous les actes médicaux qui est inscrite dans le code de déontologie médicale. Mais comme par hasard, c'est pour l'avortement qu'il y a une clause spécifique inscrite dans la loi qui permet doublement donc à un médecin de refuser de pratiquer une IVG.
D'accord. Donc aujourd'hui, et ça date de 1975, et ouais, ça n'a jamais été remis en question.
Ça n'a pas été remis en question. C'était au moment de toutes les dispositions dissuasives qui étaient dans la loi Veil, avec le délai de réflexion, avec l'entretien obligatoire, avec la notion de détresse. Tout ça a été supprimé au cours du temps. Et la seule chose finalement qui reste de dissuasif, c'est cette clause de conscience qui permet doublement à un médecin de pouvoir refuser à une femme de pratiquer un avortement. Et ce qui va générer des difficultés pour les femmes, parce qu'elles vont devoir se déplacer, reprendre des rendez-vous, pour trouver enfin un médecin qui pourra les avorter.
Donc ça les condamne à un certain nomadisme.
Et qui est le plus préjudiciable aux plus jeunes, aux plus précaires, aux migrantes, à celles qui ne comprennent pas bien le français, etc.
Vous connaissez forcément de réputation le docteur Bertrand de Rochambeau. Voici ce qu'il disait à l'époque en 2018 à Valentine Auberti pour l'émission Quotidien.
Nous ne sommes pas là pour retirer des vies.
Et quand vous dites retirer une vie à un enfant à naître n'est pas une vie au sens juridique, c'est pas un homicide de faire un IVG.
Si, madame.
Non, au sens du code pénal, c'est pas ça. C'est faux. Ça, c'est un argument.
C'est un argument.
Toutes les femmes, j'en suis une, ne considèrent pas qu'avoir un embryon dans le ventre, c'est une vie.
Eh bien, ça, c'est son opinion. Moi, en tant que médecin, je ne suis pas forcé d'avoir votre opinion. Et si je ne l'ai pas, la loi me protège. Et ma conscience aussi.
Alors, la loi peut protéger effectivement les médecins, comme le dit très bien le docteur Bertrand de Rochambeau, et elle protège aussi aujourd'hui les femmes qui veulent avoir recours à l'IVG. Comment ça peut fonctionner, Sarah Durocher, tout ça ?
Ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne très très bien, et puis des fois, ça fonctionne un peu moins bien. Ça veut dire que nous, ce qu'on peut observer de la parole des personnes, en tout cas, c'est que parfois, elles peuvent avoir une porte qui se ferme devant elles, que des fois, elles sont obligées de se déplacer à plusieurs kilomètres pour pouvoir accéder simplement à un avortement. Et puis, il y a aussi la question du choix de la méthode. Ça veut dire qu'il y a deux méthodes en France, et la possibilité de choisir cette méthode-là, enfin, une méthode ou une autre, c'est pas du luxe, et sur certains territoires, c'est très très compliqué. Donc en fait, c'est compliqué sur l'accès, comme on disait un petit peu tout à l'heure. Ça veut dire, selon là où vous habitez, si vous avez une grossesse que vous ne souhaitez pas, ça peut être plus ou moins compliqué. Ça, c'est inadmissible. Donc il faut absolument améliorer en fait cet accès-là, le faciliter. Je crois qu'en 40 ans, la loi Veil a beaucoup bougé, on a beaucoup avancé, mais à chaque fois, ça a été une lutte et une mobilisation, que ça soit d'associations, de militantes féministes, de professionnels de santé, de parlementaires. Et il faut absolument que cette loi continue à s'améliorer et qu'elle soit au plus près du terrain et des réalités que les femmes vivent au quotidien.
Vous parliez donc de deux méthodes pour avoir recours à l'IVG. Philippe Fauché, quelles sont-elles ? Il y a la pilule abortive.
Il y a la méthode médicamenteuse qui consiste en fait à déclencher artificiellement une fausse couche qu'on peut utiliser jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, 7 semaines de grossesse, et depuis peu on peut l'utiliser complètement à la maison sans avoir besoin de passer par un hôpital. Et puis la méthode par aspiration qui consiste à aller aspirer le contenu de l'utérus qui pour l'instant se fait donc jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée et qu'on aimerait prolonger de 2 semaines.
Pourquoi ?
On aimerait prolonger de 2 semaines pour laisser un peu plus de temps justement aux femmes qui vont se retrouver spontanément hors délai, qui vont découvrir tardivement leur grossesse ou comme le disait Sarah, qui vont galérer, qui vont avoir besoin de faire plusieurs kilomètres, plusieurs rendez-vous, qui vont se retrouver comme ça hors délai, qui auront formulé leur demande dans les délais légaux et qui vont se retrouver à un moment en le dépassant. Et si on donne un petit peu plus de temps, eh ben on pourra prendre en charge ces femmes.
Sarah Durocher ?
Oui, ça fait 20 ans qu'on a augmenté les délais. Il est temps de regarder ce qui se passe et d'arrêter d'être hypocrite par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a des professionnels, des associations, des personnes qui prennent la parole et qui réclament cet allongement. Et puis, il faut aussi se rappeler, comme disait Philippe juste avant, c'est que en plus de ça, ça veut dire que si vous avez les moyens, vous pouvez partir à l'étranger. Nous, au planning, on oriente des femmes, que ça soit en Espagne ou en Hollande, puisque le délai est de 22 semaines. Parfois, il nous arrive d'orienter des femmes, sauf qu'un avortement, ça coûte entre 800 et 3000 euros. Et nous, on voit des femmes qui sont dans une situation où parfois elles peuvent y aller. Et puis celles qui ne peuvent pas, qu'est-ce qu'elles vivent ? Elles vivent une grossesse qu'elles ne souhaitent pas. Et il y en a même qui nous disent, je vais me mettre en danger. Parce que, comme on a dit au tout début de l'émission, une femme qui veut avorter, elle avortera, quitte à se mettre en danger. Nous, on a déjà eu des femmes qui nous disaient qu'à regarder sur Internet pour pouvoir se mettre des choses dans l'utérus, pour pouvoir avorter. Et voilà, c'est impossible. Et aujourd'hui, de vivre une grossesse qu'on ne souhaite pas et de ne pas pouvoir la stopper, c'est une violence.
Et puis, c'est vivre une vie qu'on ne souhaite pas. Et c'est faire courir le risque à un enfant d'avoir une vie qui n'est pas... Enfin, de ne pas être désirée, quoi. Hein. C'est-à-dire que tout ça a des conséquences au-delà même du geste de l'IVG. On va se retrouver dans un instant et poursuivre nos échanges. Angie, on essaye de vous joindre. Sinon, évidemment, je lirai votre témoignage qui est assez édifiant. Mais si vous pouviez nous l'expliquer sur l'antenne, ce serait formidable. À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. Jusqu'à 15h30.
Malheureusement, nous ne pouvons pas joindre Angie qui semble avoir des problèmes de téléphone. Je vais vous raconter son histoire. Angie, elle a subi une IVG en octobre 2020 avec une gynéco qui était clairement contre, qui est aussi contre le mode de contraception qu'elle désirait choisir, qui est la contraception définitive. Qu'est-ce qui explique à un moment donné, Philippe Fauché, que des médecins puissent avoir une ingérence dans la vie de leurs patients ?
Il ne devrait pas avoir d'ingérence.
On est d'accord. Donc un médecin doit accompagner des patients dans leur choix.
Absolument. Moi, à titre personnel, par exemple, je ne demande jamais à une femme pourquoi est-ce qu'elle veut avorter. Qu'est-ce que je vais
bien sûr.
À quel intérêt pour moi de savoir qu'elle elle veut pas être mère à maintenant, qu'elle a des difficultés de couple, etc. Ça, c'est pas un problème de médecin.
Enceinte de 2 mois passés, la gynéco m'a dit « Réfléchissez bien, vu votre âge, si vous n'avez pas de second enfant maintenant, vous n'en aurez certainement jamais plus tard. » Sachant le choix que je faisais, elle a quand même laissé l'écran sous mes yeux. « Regardez, il est bien accroché, il se développe bien. » Ça fait partie des arguments culpabilisants qu'entendent des femmes aujourd'hui encore, Sarah Durocher.
Oui, ça veut dire que, étant donné que parfois on est dans la situation, on est peu informé ou pas informé, et puis il faut aussi se dire de questionner en termes les questions de santé, on le fait soi-même pas tellement. Et du coup, quand on se retrouve dans cette situation-là, à pas forcément avoir la bonne information, mais évidemment qu'on est mis en situation de vulnérabilité, de pouvoir vivre ce genre de comportement. Et puis, on peut aussi avoir le doute, ça veut dire de se dire, moi, je sais pas ce que je veux dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose à entendre aussi. Ça veut dire que nous, on a des femmes aussi qui arrivent en disant, là, moi, j'ai vu le test de grossesse, enlevez-moi ça, en fait. C'est pas possible. J'ai vu le test, non. Des personnes qui vont être très heureuses d'être enceintes, et puis d'autres qui vont pas savoir de qu'est-ce qui est leur droit aussi, qu'est-ce qui est leur choix, et puis un peu de temps en temps.
Philippe Fauché.
Oui, il faut savoir que ce que vivent le plus mal les femmes, c'est la façon avec laquelle elles sont accueillies. Et quand elles sont culpabilisées, comme le témoignage que vous venez de donner, c'est ces femmes-là qui vont avoir des cauchemars après, qui vont mal le vivre, etc. Mmh. C'est pas le fait d'avoir avorté, c'est les conditions dans lesquelles elles avortent.
En fait, Sarah, nous, la plupart, je pense que quand il y a ce que dit Philippe, quand il y a un accueil de la parole et des questionnements qu'il peut y avoir, nous, on a vu des femmes au planning revenir soulagées. Ça veut dire que le ressenti, c'est de soulager, de pouvoir avoir eu accès à l'avortement, de pas vivre une grossesse qu'elle ne souhaite pas. Et la question du soulagement, dans les témoignages des femmes que l'on peut voir après, par exemple, il est hyper présent de se dire « tout s'est bien passé, j'ai eu le choix et c'était mon choix à moi ».
Cette liberté, Alexia la conteste, en tout cas elle nous écrit « L'IVG ne fait pas partie du droit à disposer de son corps puisque le fœtus est un nouvel organisme vivant, il s'agit donc bien d'un homicide ». Ces propos, évidemment, ne regardent que vous, Alexia. « Une société doit donner tous les moyens pour éviter cela. La loi Veil est une bonne chose quand on en comprend le sens. Il ne faut pas oublier que l'IVG est une solution de dernier recours, ce n'est pas un choix ». Est-ce que toutes les femmes en France qui ont recours à l'IVG, Philippe Fauché, sont des esservelées
Vous
voyez ce que je veux dire ou pas,
oui, Sarah? Très bien.
puisque c'est un dernier recours, est-ce qu'on est toutes, est-ce qu'on a toutes été à un moment donné de notre vie complètement...
Non, tous les sociologues qui travaillent depuis des années sur ces questions de contraception et d'avortement ont très bien montré que la majorité des femmes qui sont dans une demande d'interruption de grossesse ont utilisé une méthode de contraception. Donc les femmes ne sont pas désesservelées, elles utilisent plus ou moins bien la méthode de contraception, elle est plus ou moins efficace, plus ou moins supportée, mais les femmes ne sont pas du tout désesservelées.
Que l'on puisse faire une IVG dans des cas de viol ou en cas de grave malformation ou de risque vital pour la mère me paraît normal, nous écrit Alexia. On a des témoignages de femmes qui ont subi malheureusement des agressions sexuelles. Corinne, adolescente, j'aurais aimé pouvoir y avoir recours suite à une agression sexuelle. J'ai été traumatisée de devoir subir l'agression, de porter cet enfant contre mon gré, de devoir l'accoucher mort-née. Personne ne m'a soutenue. Aujourd'hui, j'en garde des séquelles. J'aimerais que les femmes puissent décider et être soutenues plus qu'avant. Que vous inspire ce témoignage pour la fin?
Oui, c'est un témoignage. Il faut savoir qu'il y a encore des pays dans le monde où même le viol n'est pas une cause, n'est pas une raison pour interrompre une grossesse. Il y a des histoires terrifiantes en Amérique du Sud de fillettes de 11, 12, 13 ans qui sont violées et qui ne peuvent pas interrompre leur grossesse. Donc ça existe encore dans le monde. Et dans le monde, la situation est encore, dans certains pays, tout à fait catastrophique.
Sarah Durocher.
Oui, c'est ça. C'est en enfin c'est voilà, c'est pour ça qu'on maintient que c'est un droit qui est fondamental, que c'est un droit qui doit toujours évoluer. Et en effet, on peut voir ce qui se passe en Pologne par exemple, ou ce qui passe pas loin de chez nous. En Italie par exemple, il y a énormément de médecins qui posent leur clause de conscience, qui sont objecteurs de conscience, et on voit des femmes italiennes venir en France pour avorter. On voit ce genre de phénomène là, et il faut être hyper vigilant en effet, parce que quand il y a une crise sanitaire, une crise économique, enfin je vais pas redire la phrase, mais c'est des droits qui sont hyper fragile. Et enfin, je pense vraiment que pour le coup, le planning a fait un manifeste des 343 pour demander l'allongement. Il y en avait bien plus. Mmh. Et aujourd'hui, elle est accompagnée d'une pétition. Et voilà, on n'a pas de réponse actuellement. Il faut une réponse parce que le droit à l'avortement, c'est pas quelque chose qui est à part, c'est pas quelque chose d'à côté, c'est pas quelque chose qui est pas important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération.
Daniel, qui nous écoute, nous écrit sur RTL.fr. C'est une émission très orientée. Daniel, on parle de la loi française, on parle d'un droit qu'ont les femmes depuis 1975, et on se demande effectivement aujourd'hui si la loi est parfaitement appliquée. Et on assume parce qu'on fait peut-être aussi partie, figurez-vous, des plus des 343. Donc effectivement, on a été concerné aussi par ça.
Ouais, et puis enfin nous, ça nous est déjà arrivé au planning d'avoir des personnes qui arrivent en disant moi j'ai pas envie de cette grossesse, mais moi j'ai pas, enfin on m'a toujours dit qu'il fallait pas que j'avorte, on m'a toujours dit que je suis contre. En fait, la question, c'est pas de savoir individuellement. Moi, ce que je veux, par contre, en tant que personne, c'est qu'on m'empêche pas d'accéder à ce droit-là.
Il faut que les femmes se respectent entre elles.
Oui, mais c'est
non, mais c'est se battre pour enlever des droits à son
comme
prochain.
Comme le mariage pour tous et toutes, quoi. C'est la même chose, en fait. C'est
comme le droit de mourir à la dignité dont on a parlé il y a quelques temps sur cette antenne. Je vous remercie à tous les deux, évidemment, d'avoir accepté notre invitation. Philippe Fauché, je conseille votre livre Une sur trois aux éditions Robert Laffont. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Merci beaucoup, Sarah Durocher. Merci. Je rappelle que vous êtes coprésidente nationale du planning familial, vers lequel peuvent se tourner justement des femmes qui n'ont pas l'écoute nécessaire, et vous êtes là pour les orienter, et les jeunes notamment, qui, à l'instar des amis, peut-être aussi de Laura, ne comprennent pas que l'on puisse avoir cette liberté. Merci à vous. Merci à tous pour cette heure utile et passionnante. Merci pour tous vos messages de soutien et enthousiaste, effectivement, car c'était un sujet qui nous paraissait important de traiter. On se retrouve demain dès 14h30 en direct sur RTL. On écoutera les jeunes, les ados, les étudiants. Ils nous expliqueront en direct ce qu'ils vivent en ce moment. Et croyez-moi, ils ont beaucoup, beaucoup à nous dire. Prenez bien soin de vous dans cette attente. Je vous embrasse et à demain.
Flavie Flamand sur RTL.